Bonjour et je suis ravie de vous présenter La femme au manteau violet de Clarisse Sabart. Alors forcément, je m'y attendais. Et La femme au manteau violet, qui est parue en 2020, m'a plus que plu. Il a touché mon cœur de maman, il a nourri ma passion pour les USA, il a piqué ma curiosité sur les années 30 à New York, et du coup, j'ai très envie d'en savoir plus sur les coulisses de la prohibition et les bas-fonds de la mafia. Et il m'a fait tout simplement voyager, compatir et aimer tous les personnages, aussi différents soient-ils. Par exemple, Charlotte pourrait être un symbole à elle seule. Voici un avant-goût du roman avant de vous partager mon avis. Et donc voici le résumé. Depuis qu'elle a appris son anévrisme, Jo vit avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Opérée, pas opérée. Avant de faire ce choix risqué, la jeune femme se réfugie chez son grand-père Victor, ancien champion de boxe. Si l'avenir reste incertain, son passé n'en est pas moins mystérieux. Un pendentif que possède le vieil homme la met sur la trace d'un visage, d'un prénom, d'un secret. Du Devonshire au New York des années 30 commence alors un périple intime parmi les airs de jazz, les flûtes de champagne et les gangsters de la prohibition. Et tout au bout, cette énigme. La femme au manteau violet. Alors, lire donc ce roman, c'est plonger dans deux temporalités dont le fil rouge est ce secret que renferme le médaillon. C'est aussi l'histoire de plusieurs rencontres décisives. Celle de la Champagne rustique, du New York fantasque des années 30 et du Devonshire en Angleterre. Celle aussi de plusieurs générations et la rencontre de Charlotte et de Ryan. Mais c'est surtout l'histoire de la rencontre du passé avec le présent et tout ce qu'il mettra en lumière. Remontons le temps jusqu'en 1929. Charlotte, jeune maman, a confié son bébé de 3 mois à peine afin d'accompagner son mari Émile pour un séjour d'affaires à Manhattan. Elle découvre cet univers qui fourmille et assiste à la construction notamment de l'Empire State Building. Son mariage est loin de l'épanouir, mais elle fait bonne figure. Elle a surtout hâte de retrouver son fils Gabriel. Et pendant que son époux négocie les prix et la livraison de son champagne, Charlotte, elle, s'ennuie, elle tourne en rond et elle finit par le convaincre de la laisser l'accompagner au Cotton Club. Elle y découvrira les airs de jazz du moment, ce qui couvre les conversations sombres du club. Elle ne le sait pas encore, mais cette soirée sera déterminante pour la suite de sa vie à New York. En effet, ce soir-là, dans ce dancing aux mœurs plutôt légères, elle fait la connaissance de Ryan, l'entrepreneur de l'import-export qui les a conviés dans la Grande Pomme, elle et son mari, pour parler affaires. Elle se sent maladroite dans ce club à l'atmosphère enfumée où les rires fusent de toutes parts. Maladroite et aussi timide, entourée de jeunes femmes aux cheveux coupés courts, aux robes près du corps, serties de brillants et de perles, aux yeux charbonneux et à la bouche rouge carmin. Autant de symboles d'insouciance et de liberté. Un univers aux antipodes de son quotidien champenois. Mais vraiment, ce soir sera incontestablement le premier du reste de sa vie. Dans les jours qui suivent, les drames successifs la laisseront démunie, anéanti, sans plus aucune identité. Elle ne peut même plus rentrer en France. Et son pire drame est bien là, être privée de son bébé. Condamnée à rester vivre à New York, Charlotte, après avoir touché le fond, refait surface peu à peu, et elle a désormais envie de s'assumer. Elle ne veut plus dépendre de personne. Et c'est en cela qu'elle a des idées avant-gardistes. Elle se fond de plus en plus dans cet esprit libertaire et rempli d'indépendance, d'espoir et aussi de promesses. Finalement, sa détresse s'est transformée en énergie vitale et elle avance au gré de ses tourments, même si la pensée de son fils la hante. Et maintenant, un saut dans le temps, en 2018, où nous faisons la connaissance de Jo, qui est une jeune femme pétillante, mais elle vient d'apprendre qu'elle souffrait d'un anévrisme passé inaperçu jusque-là. Déroutée, elle décide de se réfugier chez son pépé Victor, à qui elle se confie. Elle a besoin de savoir quoi faire, et sa présence la réconforte depuis toujours. D'autant qu'elle refuse d'informer Adrien de cette pénible nouvelle. Adrien, son meilleur ami, et bien plus. Mais elle ne veut pas devenir ce poids pour lui, en étant malade ou en risquant sa vie avec l'opération. Elle ne souhaite ni qu'il la plaigne, ni qu'il se sente obligé de compatir. Son grand-père en profite pour lui parler de ce médaillon qu'il a reçu 15 ans plus tôt, Nimbé de mystère, selon lui. Il l'envoie donc en Angleterre, en mission, et puis ça lui changera les idées. Mais c'est surtout une plongée dans le passé pour aider sa petite fille à affronter son présent. Et c'est donc lors de ce séjour dans le Devonshire que Jo, accompagnée de sa meilleure amie Adeline, va faire toute la lumière sur ce médaillon et découvrir l'existence de Charlotte. La femme au manteau violet, c'est un magnifique roman qui traverse les océans et les générations. Et là, sous la plume envoûtante de Clarisse Sabar, le fil se déroule d'un continent à l'autre et les ombres s'éclaircissent. Les secrets se défont un à un, en même temps que Jo reprend confiance en elle et dans le lien qui l'unit à Adrien. Et puis, je suis une grande fan des États-Unis et je raffole de tout ce que je peux en lire et découvrir. Et j'ai adoré plonger dans cet univers de femmes et m'immiscer avec elles dans le New York de la prohibition et du crash boursier. En effet, Charlotte y pose les pieds au moment le plus critique des retombées économiques et côtoie la pauvreté tout comme les gangsters. Donc, j'ai noté de quoi fouiller pour en apprendre un peu plus sur Al Capone. Oui, tout le monde le connaît, mais quand même. Et le massacre de la Saint-Valentin à Chicago à la même époque. Également sur les enjeux plus profonds de la prohibition, des bars clandestins et la toile d'araignées mafieuses autour. Aussi sur les premiers grands magasins, le jazz, la construction des symboles architecturaux de la ville. J'ai envie aussi de creuser un peu plus et découvrir les quartiers de Harlem et de Brooklyn, gangrénés par la pauvreté et la drogue, mais aussi portés par des âmes fortes et généreuses, battantes. Et c'est de tout cet univers dont il est question dans le roman. Et moi, j'en redemande. Il y a, au creux de ces pages, de la solidarité, de l'amour, de l'amitié, de la persévérance, parce qu'il y a toujours de l'espoir dans les cœurs de chacun des personnages. L'histoire est belle, émouvante, juste, documentée. Parfois, elle est dure et cruelle, mais toujours empreinte de sensibilité. Et j'ai aimé suivre Jo et remonter dans le temps avec elle et les souvenirs. Mais ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est la tendresse en filigrane sous la plume de l'autrice, comme un hommage à l'amour maternel qui reste éternel. Clarisse Sabar a cette faculté à nous entraîner dans des histoires familiales avec une facilité déconcertante. Je vous invite d'ailleurs chaleureusement à découvrir chacun de ses romans. Avant de terminer, quelques citations. Pourquoi, quand tout va bien, le destin semble vouloir ajouter son grain de sel, comme si le bonheur avait un prix. Les époques ont beau être différentes, ce sont finalement toujours les mêmes sentiments qui nous animent. La haine, les doutes, l'amour, la peur. S'occuper était le meilleur moyen de soigner un cœur brisé. Belle lecture à vous, belle découverte aussi, et à très vite pour la suite.